La criminalité, le meurtre, le cauchemar. Nous connaissons beaucoup d'affaires qui ont marqué nos mémoires par leur cruauté, par l'horreur des actes commis. Revenons sur ces affaires qui ont marqué la Belgique. Ce podcast va parler de sujets prenants. Âme sensible, je suis au regret de vous déconseiller de m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a profondément choqué la Belgique. Quand j'ai lu les titres des articles à ce sujet, j'ai immédiatement entamé des recherches pour savoir pourquoi le tueur du jour est surnommé le vampire de Muizen. Commençons par le premier meurtre. Nous sommes le 13 octobre 1971, le titre « Mamie Blue » de Dade est le numéro 1 des écoutes et un temps grisâtre anime l'extérieur. Nous sommes à Muizen, c'est une section de la ville de Malines qui se trouve dans la province d'Anvers. On y trouve une gare, un zoo, une grande réserve naturelle et aussi une belle zone habitée. C'est une petite ville assez vivante où les paysages varient entre verdure et béton. Marie-Thérèse Rossel débute doucement sa journée. Elle est une sorte d'aide de maison chez un baron du textile local. Elle a 18 ans et pour gagner de l'argent, elle travaille chez cet homme où elle garde les enfants, elle cuisine, elle fait le ménage, les tâches ménagères générales, tout ce qui nous embête, nous, en général, et qu'on est obligé de faire. Parfois, elle dort même sur place pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. La maison, elle est isolée, un peu en retrait, le genre de lieu parfait pour vivre en famille sans être embêté par les voisins. Pour décrire Marie-Thérèse physiquement, c'est une belle brune aux traits fins. Son regard est foncé avec beaucoup de charme, sa bouche sourit timidement. Sur la seule photo que j'ai pu voir d'elle, je dirais qu'elle fait un peu plus vieille que son âge, à peu près la vingtaine. Ce 13 octobre, elle fait le ménage dans la grande demeure, puis commence à faire la cuisine, lorsque la cloche de la porte d'entrée retentit. Lorsqu'elle ouvre, c'est un homme qui se trouve face à elle. Assez grand, cheveux mi-longs, il lui demande si le propriétaire des lieux est là. Malheureusement pour la jeune fille, la réponse est non. Le monsieur qui se tient face à elle sait pertinemment que le baron, sa femme et ses deux enfants sont sortis pour passer la journée dans une foire voisine. C'est à ce moment-là que l'inconnu s'est invité à rentrer pour attendre le retour du propriétaire. Il force la main pour pénétrer dans la demeure et c'est à cet instant que le drame prend place. La jeune femme était en train d'éplucher des pommes de terre avant l'arrivée de l'intrus. Quand il est rentré, il s'est rapidement emparé du couteau qui lui servait pour sa tâche, pour la menacer de la tuer si elle ne couche pas avec lui. Il commence à agresser Marie-Thérèse. La jeune fille comprend qu'elle a très peu de chance face à lui, mais elle essaye quand même de se débattre. L'homme finit par la violer, puis la poignarder à 18 reprises. Il traîne son corps dévêtu à l'arrière de la maison. La pauvre Marie-Thérèse sera retrouvée le lendemain, avec des marques de morsures violentes, notamment sur la poitrine. Plus tard, les enquêteurs réaliseront qu'elle était une cible au hasard, sur place, au mauvais endroit, au mauvais moment. La seconde victime n'est pas du tout un profil similaire. Ida Smith est une maman de 44 ans. Elle a 3 enfants et est mariée à un avocat et professeur universitaire du nom de Franz van Isacker. Elle est brune, coupée au carré court, et je trouve qu'elle a des airs de ressemblance avec l'actrice Vera Farmiga. Elle est apprêtée à la mode de son époque, c'est une très jolie femme. Le 22 décembre 1971, l'ambiance est au réveillon de Noël. Les cadeaux sont déjà presque emballés dans toutes les familles et le repas est déjà prévu depuis bien longtemps. Ce jour-là, Ida décide d'aller se balader sur les bords de la Dyle, la rivière qui traverse Muizen. Le lieu est calme, il n'y a personne aux alentours, à part un homme qui rentre du travail à vélo. L'unique personne qu'elle croise sur son chemin va l'agresser violemment. Il la traîne jusqu'à un bâtiment d'usine désaffecté. Il tente de la violer, mais il échoue. Alors il commence à étrangler la pauvre femme et la laisse pour morte. L'homme part pour rentrer dîner chez lui, tranquillement, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Puis quelques heures plus tard, il revient sur place pour assouvir ses pulsions. Mais lorsqu'il arrive, Ida a repris connaissance. Elle est très faible, elle ne le reconnaît pas et le supplie de l'aider. De peur d'être reconnue, il l'étrangle une seconde fois, il abuse de son corps et laisse sa signature, de violentes morsures sur sa poitrine. 3 mois plus tard, le 19 mars 1972, Ludgard van der Wilt, une jeune femme de 19 ans, décide de se rendre au bal d'une association dans une ville voisine de Muizen. Ludgard a des cheveux courts, un peu bouclés et châtains. Son sourire timide, mais gai, orne son visage rond. L'ambiance de cette fête était sympathique. Certains jeunes des villes voisines étaient sur place pour s'amuser. Ludgard rencontre un garçon ce soir-là. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais elle passe la soirée à danser avec lui. Lorsque la fête commence à se terminer, l'homme propose à Ludgard de la raccompagner jusque chez elle pour s'assurer de sa sécurité. Elle accepte avec joie. Et sur le chemin, il lui propose de se promener sur une route un peu plus éloignée du monde. Un peu méfiante, elle refuse. Et c'est là que le visage de son nouvel ami change. Il s'énerve, d'abord il la frappe. Puis, comme les autres victimes, il la viole. Puis il l'étrangle pour la tuer. Pour finir, il enterre à moitié son corps sous un tas de feuilles et un tas de branches sur le bas-côté. Les recherches commencent dès le lendemain. Ce qui se passe, c'est qu'un homme se balade près de l'endroit où le corps de Ludgard est enterré. Il y trouve un sac avec des chaussures, alors il commence à chercher d'autres affaires, au cas où quelqu'un aurait perdu des objets importants. C'est à ce moment qu'il tombe sur le corps de la pauvre jeune fille. Rapidement, les autorités remarquent le même type de morsure que sur les femmes retrouvées mortes dans les mois qui précèdent. Autour des enquêteurs et du corps, de nombreux villageois se sont agglutinés, attirés par leur curiosité, leur incompréhension et le choc. Un homme en particulier retient l'attention des policiers. Il se tient près du corps de la victime et agit d'une manière particulièrement étrange. Les enquêteurs décident de l'arrêter pour lui poser quelques questions. Lorsqu'il lui demande son identité, l'homme répond « Staff Van Aken ». Staff Van Aken est né le 21 avril 1951. Fils d'une famille modeste, il grandit à Bonheiden, village calme, proche de Muizen. Son père est alcoolique et violent. Il frappe Staff régulièrement, à coups de ceinture par exemple. Il s'engage dans la Légion étrangère lorsque Staff est encore jeune. Il veut fuir la Belgique car il a un meurtre sur la conscience. Sans surprise, les chiens ne font pas de chat. Il finira par se suicider en Algérie. La mère de Staff se nomme Marie. Suite à la mort de son époux, elle refait sa vie avec un autre homme, toujours violent. Ils ont une fille, Christelle, qui meurt dans un accident au monoxyde de carbone lorsqu'elle est chez les voisins de la famille. Par la suite, Marie tombe malade, la sclérose en plaques, qui lui terrasse la santé. Elle doit rester dans un fauteuil roulant et elle est très affaiblie. Staff grandit dans cet environnement instable où il est abusé sexuellement par sa tante de ses 9 ans à ses 13 ans. Une enfance dramatique qui construit un futur agresseur. À l'âge de 14 ans, il est envoyé en maison de correction car il a agressé une fillette de 11 ans. Après ça, il passe d'institution en institution jusqu'à ses 18 ans où il effectue son service militaire. Après tout ça, il est engagé en tant que cheminot dans une station de manœuvre à Muizen. Son casier judiciaire est déjà bien rempli, allez-vous me dire. Mais en fait, non. Car après l'agression de la jeune fille, il n'y a pas eu plus de poursuites que la maison de correction pour laisser une chance à ce jeune homme d'évoluer dans une nouvelle vie. Maintenant que vous avez compris qui est Staff Van Aken, on peut revenir au 13 octobre 1971. Lorsqu'il sort du travail, il va boire quelques bières dans un pub. Puis une pulsion l'envahit. C'est à ce moment-là qu'il décide de chercher une femme dans les ruelles désertes qui entourent le bar. Il s'éloigne de plus en plus et tombe sur la maison du baron du textile. Il reste en retrait et observe le baron partir, puis sa femme et les enfants. Il remarque qu'il ne reste qu'une seule personne, Marie-Thérèse Rossel. Et vous connaissez déjà la suite. Pour la petite anecdote, lorsque Staff est rentré tranquillement chez lui après avoir tué Marie-Thérèse, il a appris le décès de sa mère qui était très malade. Le soir même, il s'est rendu sur son lit d'hôpital pour dire adieu à sa maman, alors que ses mains venaient de tuer une jeune femme quelques heures plus tôt. D'ailleurs, au niveau de l'enquête, les policiers soupçonnent le baron du textile chez qui elle travaille. Le pauvre homme était dévasté à la découverte du corps. Mais très vite, les pistes s'orientent vers les 4 frères de cet homme. Tous interrogés, ils n'ont pas arrêté de nier. Oui, ils connaissaient Marie-Thérèse, mais jamais ils n'auraient pu lui faire du mal. Au final, les soupçons se sont arrêtés à la découverte de la seconde victime, Ida Smits. Ce jour-là, il est parti de son travail en se certifiant qu'il agresserait la première femme qu'il croiserait en sortant du boulot. Pas de chance, c'était Ida. Après ça, il fait une pause dans les meurtres. Il n'était pas soupçonné, mais il avait peut-être peur d'avoir laissé trop de traces. C'est au lendemain du meurtre de sa troisième et dernière victime qu'il va enfin être incarcéré. Lorsqu'il revient sur les lieux du crime en observant les enquêteurs en plein travail, c'est une action classique de la part de certains tueurs en série qui aiment ce jeu de piste avec les enquêteurs. Quand il est interrogé, la police observe une tache de sang sur sa manche. Il fumait une certaine marque de cigarette et comme par hasard, les mêmes ont été retrouvés sur place. Une perquisition a également montré qu'il détenait des articles de journaux de ses meurtres. Après tout ça, il ne met pas longtemps à avouer les 3 crimes. Et il avoue également d'autres agressions, viols et tentatives de meurtre sur plusieurs femmes qui n'ont jamais porté plainte ni reconnu leur agresseur. Le procès a débuté le 23 avril 1974 et s'est terminé le 30 avril de la même année. Le jury a délibéré pendant 3 heures et un questionnaire leur a permis de le déclarer coupable à presque l'unanimité. La peine de mort étant abolie en Belgique, il a été condamné à la prison à vie. À l'annonce du verdict, Van Aken n'a eu aucune réaction. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Staff Van Aken dit lui-même qu'il ne veut pas sortir de prison pour le bien de la population. Grâce au régime belge, il a pu bénéficier d'une sortie ou deux par an, où bien sûr il était accompagné d'employés de la prison. Lors de ses sorties, il allait au pub ou bien rendre visite à certains de ses amis. En 2006, le régime s'est durci, il n'a plus le droit de sortir, sauf une seule fois, pour aller rendre visite à un prêtre malade qui l'avait beaucoup aidé durant sa détention. Staff Van Aken a été interviewé sur les conditions de sa détention il y a peu de temps. Il vit aujourd'hui dans une cellule depuis 51 ans. Le journal DHNet a retranscrit son interview, voici ce qu'il dit.
Ma cellule, c'est mon espace de vie, je ne vois pas ça comme une punition, je sais ce que j'ai fait de mal, je suis devenu un autre homme. Avant, je n'avais aucun remords. Maintenant, oui. Et c'est grâce au thérapeute qui me suit depuis 10 ans. Ici, j'ai ma structure et je sais vivre. Je ne pense pas que j'en suis capable à l'extérieur. Au procès, les psychiatres m'ont décrit comme psychopathe, manipulateur et narcissique. C'est possible que je sois un psychopathe, mais je ne le pense pas. Je pense quand même que je suis très dangereux. J'en suis même certain. Je ne peux pas réécrire l'histoire. Ce qui est fait. Mais je veux faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Je me rends compte que cette réponse n'apportera pas beaucoup d'aide aux familles. J'espère qu'elles pourront s'en contenter.
Vous l'aurez compris, Staff Van Aken est toujours en vie et il finira ses jours en prison. Il est à l'heure actuelle le plus ancien prisonnier belge encore incarcéré. C'était la terrible histoire du vampire de Mouizen pour le petit podcast des grandes horreurs créé et réalisé par Emma Villot. J'espère avoir le temps de vous réaliser un nouvel épisode dans un mois. Et si vous avez loupé un morceau de ce podcast, n'hésitez pas à le consulter sur rqc.be ainsi que sur Spotify. À bientôt !